de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. En réponse aux accusations de violation des droits humains, l'Indonésie a affirmé que Vanuatu n'est pas un représentant de la Papouasie. Luhut a demandé aux fabricants nationaux pharmaceutiques d'accélérer la production de médicaments COVID-19. 2021 est le momentum pour l'éveil du tourisme indonésien. Tourisme Malaisie continue d'opérer à Medan, même si les touristes ont chuté. De nouveaux combats éclatent au Haut-Karabakh. Le premier ministre malais Muhyiddin est reconnaissant pour la victoire des GPRS à Sabah. Melbourne commence à desserrer le confinement et les écoles ouvrent le mois prochain. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le gouvernement indonésien souligne que Vanuatu n'est pas un représentant du peuple papou lorsqu'il exprime le droit de répondre des allégations de violation des droits de l'homme que la nation du Pacifique a portées contre l'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré Sylvani Austin Pasaribu, un jeune diplomate représentant l'Indonésie, utilisant le droit de réponse à l'Assemblée générale de l'Organisation Nations Unies samedi, heure locale. Dans l'enregistrement vidéo officiel de l'Organisation Nations Unies, Sylvani a déclaré que Vanuatu avait une obsession excessive et malsaine sur la façon dont l'Indonésie devrait agir et gouverner son propre pays. La raison en est que presque chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, Vanuatu aborde toujours la question des violations présumées des droits de l'homme subies par le peuple papou, une accusation que l'Indonésie considère délibérément soulevée pour soutenir le séparatisme. Elle a souligné que depuis 1945, la Papouasie et la Papouasie occidentale font partie de l'Indonésie, ce qui est une décision finale et ne peut être modifiée. Cela a également été fermement soutenu par les Nations Unies et la communauté internationale pendant des décennies. Le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes et de l'Investissement, qui est également vice-président de la Commission des politiques de contrôle du COVID-19 et de la relance économique nationale, Luhut Binsar Panjaitan a demandé aux fabricants nationaux pharmaceutiques d'accélérer la production de médicaments COVID-19 dans la remdesivir. Dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche dernier, Luhut a également demandé à Bio Pharma, en tant que producteur pharmaceutique national, de prendre immédiatement des mesures rapides et précises afin que les matières premières pour la production nationale puissent être immédiatement mises en œuvre pour l'intérêt national. Pendant ce temps, le président directeur de Biopharma, Honesty Bachir, a déclaré que sa partie avait obtenu un permis pour produire du remdesivir. Il y a deux façons, à savoir en coopérant avec l'Inde. En second, en plus des permis d'importation, sa partie est aussi actuellement à la recherche de la production nationale. Biopharma, selon lui, a également mené des essais cliniques à l'échelle pilote pour la production nationale de remdesivir. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative est optimiste que 2021 deviendra le momentum pour la relance du tourisme indonésien. De plus, la nouvelle selon laquelle le vaccin COVID-19 sera disponible l'année prochaine est une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme. Le député pour les produits touristiques et la mise en œuvre des activités, Rizky Handayani Mustafa, lors d'un événement virtuel de commémoration de la Journée mondiale du tourisme dimanche dernier, a déclaré que son parti acquérirait une nouvelle ère de tourisme plus résilient et avancé. Bien sûr, le nouveau défi est de créer une culture de voyage qui soit confortable mais plus sensible aux aspects de la santé, de la sécurité et de la préservation de la nature. Rizky a ajouté qu'après le vaccin COVID-19, le secteur du tourisme et l'économie créative vont augmenter à l'avenir. Tourisme Malaisie fonctionne toujours normalement à Medan, car il évalue le potentiel pour les touristes du nord de Sumatra du Nord de rester nombreux après la pandémie COVID-19. Cela a été dit par le directeur du tourisme Malaisie pour Medan, Hishamuddin Mustafa à Medan dimanche dernier. Selon lui, diverses activités étaient encore menées, même avec des webinaires pour empêcher la propagation de COVID-19. Il a souligné que des bonnes relations entre la Malaisie et l'Indonésie, en particulier dans le secteur du tourisme, doivent être maintenues. De plus, le nord de Sumatra reste l'une des 5 provinces de Sumatra que l'industrie du tourisme malais vise à investir ou à attirer des touristes. Le chef de l'Agence centrale des statistiques du nord de Sumatra, Sheikh Suhaimi, a révélé que les visites touristiques malaisiennes dans le nord de Sumatra pour la période janvier-juillet 2020 avaient chuté de 69,09%. Malgré cette baisse, les touristes malaises ont toujours apporté la plus grande contribution, soit 29,17% du total des visites touristiques étrangères dans le nord de Sumatra, qui représentait 23 597 personnes entre janvier et juillet. Les forces séparatistes de la région séparatiste du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan ont abattu dimanche deux hélicoptères militaires azerbaïdjanais. L'attaque est intervenue après que l'Azerbaïdjan a commencé à bombarder l'enclave. Les pires affrontements depuis 2016 ont soulevé le fléau de la guerre à nouveau grand rival entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui s'est arrêté pendant des décennies dans un différent territorial sur le Haut-Karabakh. Dimanche matin, l'Azerbaïdjan a commencé à bombarder activement le front du Karabakh et des cibles civiles, y compris dans la ville principale de la région, Stepanakert. Le premier ministre malais, Muhyiddin Yassin, s'est félicité de la victoire de la coalition de son parti de soutien, l'Association populaire de Sabah, aux élections de l'État de Sabah. Le premier ministre Muhyiddin a déclaré dimanche, sur sa page de médias sociaux, que la victoire montrait la confiance du peuple dans les partis du GRS ou l'Association populaire de Sabah, qui comprenait Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Partai Bersatu Sabah. Muhyiddin a également exprimé sa gratitude à tous les officiers et bénévoles qui ont aidé à faire campagne pour les candidats de GRS à ces élections. Selon des sources de la Commission électorale malaise, le Parti Warisan Sabah a remporté 29 sièges, Barisan Nasional 14 siège, Perikatan Nasional 17 siège, Le Parti Bersatu Sabah 7 siège, L'Organisation de Pasok Momogun Kadazan Dusun Murut Bersatu 1 siège, Le Parti de la Justice Populaire 2 siège et Indépendant 3 siège. La deuxième plus grande ville d'Australie, Melbourne, a commencé à assouplir les restrictions de confinement imposées après un pic de cas de coronavirus. Cet assouplissement permettra à la plupart des enfants de retourner à l'école à partir du mois prochain. Citée d'Associated Press dimanche dernier, cette politique d'assouplissement incitera également plus de 125 000 personnes à reprendre le travail. Melbourne et les régions environnantes de la campagne de l'État de Victoria ont été placées sous strict confinement de niveau 4 le 2 août. Melbourne ferme les écoles et les entreprises non essentielles. Un couvre-feu est appliqué et les rassemblements publics sont interdits. Voilà le journal d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku cakuyong shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Encourager l'économie rurale au milieu de la pandémie de COVID-19 ». Chers auditeurs, vous êtes avec moi Audrey. Les villages d'Indonésie dont le nombre dépasse 75 000 devraient devenir l'épine dorsale de l'économie à un moment où la pandémie de COVID-19 n'est pas encore terminée. Pour encourager l'économie rurale, les infrastructures villageoises doivent bien entendu continuer à être améliorées. Parmi eux, à travers des fonds villageois de relance à forte intensité de liquidité qui visent à maintenir la productivité. Le président Joko Widodo, lors d'une réunion restreinte du cabinet jeudi 24 septembre, a souligné que la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 devrait être un élan pour mener des réformes et planifier une grande stratégie pour soutenir l'économie, y compris dans les villages. Le président a demandé que tous les programmes relatifs au filet de protection sociale dans les villages, tels que le programme d'espoir familial, l'assistance sociale en espèces,
Les transferts en espèces dans les villages, etc., fonctionnent de manière efficace et conforme aux objectifs. De même avec la mise en place de l'argent contre travail dans les zones rurales, il doit être accompagné en respectant les protocoles de santé. Pour alléger le fardeau des communautés rurales qui risquent de perdre leur emploi ou qui ont du mal à trouver du travail en pleine pandémie ou celle des milieux défavorisés. En outre, le président Joko Widodo a également chargé les responsables concernés de consolider les programmes des ministères susceptibles d'améliorer l'économie du village. Selon lui, chaque ministère ne devrait pas gérer le programme de manière indépendante. Ils doivent s'intégrer dans des schémas de programmes qui se complètent. Sinon, les résultats ne seront pas visibles. De plus, chaque village doit également être amené à développer son potentiel local afin de renforcer le levier économique du village. Le président indonésien a souligné que les villageois doivent avoir un espace de participation et de création pour faire progresser les secteurs de pointe du village, comme ceux liés à l'agriculture, au tourisme villageois, à l'industrie dans les zones rurales. Actuellement, plus de 75% de la population indonésienne vit dans les zones rurales. Cela signifie que l'avenir de ce pays ne doit plus se situer dans les villes, mais dans les zones rurales, en particulier dans les conditions pandémiques actuelles. À l'avenir, la ville ne devrait être qu'un prestataire de services, tandis que les centres d'activité de production se trouveront dans le village. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire. Chers auditeurs, bonsoir. On va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 28 septembre 1928. Alexander Fleming a découvert la pénicilline. Chers amis, Sir Alexander Fleming est un scientifique écossais qui a réussi à trouver de la pénicilline, un type d'antibiotique produit par la champignon Penicillium notatum le 28 septembre 1928. Cette substance peut être utilisée pour tuer de nombreux types de bactéries nocives pour le corps humain. Avec Ernst Chain et Howard Florey, Fleming a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1945. Chers auditeurs, on continue avec l'événement du 28 septembre 1945, journée du train indonésien. Après l'annonce de la proclamation d'indépendance indonésienne le 17 août 1945, les employés des compagnies de chemin de fer membres de la Railway Muda Force, ou AMCA, ont repris le pouvoir des chemins de fer du Japon. Le 28 septembre 1945, la lecture d'une déclaration d'Ismail et d'un certain nombre d'autres membres de l'AMCA a confirmé qu'à partir de ce jour, le pouvoir des chemins de fer était entre les mains du peuple indonésien, de sorte que le Japon n'avait plus le droit de s'ingérer dans les affaires ferroviaires en Indonésie. C'est ce qui sous-tend la stipulation du 28 septembre 1945 comme journée des chemins de fer indonésiens. Aujourd'hui, la société d'État s'appelle KAISA. Chers amis, on termine l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 28 septembre 1995, accord de paix israélo-palestinien. Le 28 septembre 1995, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, Yasser Arafat, ont signé l'accord intérimaire israélo-palestinien à Washington DC, États-Unis. En vertu de cet accord, les dirigeants de OLP pourraient retourner dans les territoires occupés et les Palestiniens gagneraient une plus grande autonomie en Cisjordanie. La récompense est de reconnaître l'existence d'Israël et d'abandonner les moyens de lutte violents. Cependant, cet accord s'est opposé au Hamas et à un certain nombre de factions palestiniennes radicales qui étaient prêtes à mener une lutte armée, y compris des attentats suicides en Israël pour libérer la Palestine. Mon cher auditeur, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Slide.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, 15 zones économiques spéciales ouvrent des opportunités pour attirer les investisseurs. Le ministre de la Coordination de l'Économie, Airlangga Hartarto, a déclaré qu'il existe 15 zones économiques spéciales ou ZES qui sont l'occasion pour l'Indonésie d'attirer des investisseurs étrangers pour investir en Indonésie. Dans sa déclaration écrite jeudi, Airlangga a déclaré que toutes les ZES ouvraient des opportunités d'investissement dans divers domaines industriels tels que palmia oil, le caoutchouc, la pétrochimie, l'agro, la pêche, la fabrication, la logistique, le tourisme et d'autres secteurs. Les 15 ZES comprennent Arun Loksmawe, Semangke, Galang Batang, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Sorong, Morotai, Bitung, Palu, Maloy, Batu Tatras, Kalimantan, Tanjung Api-Api, Kendal, Singasari, Eli Kupang. Airlangga Hartarto a déclaré que le potentiel d'investissement ZES était ouvert aux locataires, aux développeurs et aux fournisseurs d'infrastructures. Il a déclaré que le gouvernement fournirait diverses facilités spéciales et incitations fiscales et non fiscales aux investisseurs des zones économiques spéciales. Les incitations fiscales comprennent une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 10 ans avec une valeur d'investissement minimale de 6,9 millions de dollars américains pour les promoteurs. Une exemption fiscale est également accordée pendant 10 ans aux locataires qui investissent d'une valeur minimale 6,9 millions de dollars américains, 15 ans avec une valeur d'investissement minimale 34,5 millions de dollars américains et 20 ans d'investissement exonéré d'impôt d'une valeur minimale de 67 millions de dollars américains. En outre, le gouvernement fournira également des déductions fiscales pour chaque industrie. Une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA et une taxe de luxe sur la livraison et le service de biens imposables. Le gouvernement offre également des incitations non fiscales sous la forme de l'absence d'obligation d'exploitation, la pleine propriété étrangère est autorisée et la liste négative n'est pas appliquée dans les ZES. Également soumis à des taux de droit de 0% sur les produits au moins 40% de contenu local pour toutes les industries. Les incitations non fiscales sont également fournies sous la forme de services à guichet unique par les administrateurs de ZES. En outre, le gouvernement accordera un traitement spécial aux travailleurs étrangers pour l'immigration, des procédures spéciales d'accélération pour la certification des terres, les droits d'utilisation et les droits de construction pour une période jusqu'à 80 ans. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan. hidup seenaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons le Palais Kadaria à l'ouest de Kalimantan. Pontianak est la capitale de la province de Kalimantan occidentale en Indonésie. Cette ville est connue comme la ville de l'Équateur car elle est traversée par l'Équateur. Le tourisme de la ville Pontianak est soutenu par la diversité culturelle de la population de Pontianak. L'une des formes de diversité culturelle peut être vue dans l'existence du Palais de Kadaria. Le Palais de Kadaria est indissociable de la figure de Sayyid Sharif Abdurrahman Al-Qadri qui dans sa jeunesse avait visité différentes régions de l'archipel et établi des contacts commerciaux avec des marchands de divers pays. Historiquement, le Palais Kadaria a été construit en 1771 après Jésus-Christ et n'a été achevé qu'en 1778 après Jésus-Christ. Peu de temps après l'achèvement du palais, Shaykh Sharif Abdurrahman Al-Qadir a été couronné premier sultan du sultanat de Pontianak. Au cours de son développement, ce palais a continué à subir un processus de rénovation et de reconstruction jusqu'à ce qu'il devienne sa forme actuelle. La structure du bâtiment de Palais Kadakia est en bois sélectionné. À l'avant, au centre et à l'avant gauche du keraton ou du palais, nous pouvons voir 13 canons anciens fabriqués en portugais et en français. Une salle en forme de chair qui s'avance et qui a été utilisée par le sultan comme lieu de repos ou simplement pour profiter de la vue magnifique sur la rivière Kapuas et la rivière Landak. Le palais de Kadakia possède également une collection assez complète d'objets historiques tels qu'une variété de bijoux utilisés de génération en génération, des objets anciens tels que des héritages et des artefacts, de la verrerie, des photos de la famille du sultan et des statues. Certaines chambres privées appartenant à la famille royale sont également ouvertes au public, bien qu'il existe certaines interdictions lorsque les visiteurs y entrent. Ce palais est situé près du centre de la ville de Pontianak, dans l'ouest de Kalimantan. Son emplacement dans le centre-ville permet aux touristes de le visiter facilement. L'accès à ce palais peut être traversé par des routes terrestres ou fluviales. Si vous utilisez la route terrestre, vous pouvez utiliser des véhicules à 2 ou 4 roues. Tandis que si vous utilisez la route fluviale, vous pouvez utiliser le bateau ou le bateau rapide depuis le port de Sengi. Sales Retalk, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Le Palais Kadakia à l'ouest de Kalimantan. Merci de votre attention. À demain.
pergi jauh pulang. Lalu bimbang ragu, pupus hilang di
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici apprendre l'indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est menjawab soal ujian. Je répète. Menjawab soal ujian. En français, répondre aux questions de l'examen. Bonne étude. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est menjawab soal ujian. Menjawab soal ujian, en français, répondre aux questions de l'examen. À la salle de l'examen, Kevin a demandé à Monsieur Bayou, surveillant de l'examen, comment répondre aux questions de l'examen.
Maaf, Pak.
Iya, ada apa, Kevin?
Bagaimana menjawab soal pilihan ganda ini?
Berikan tanda silang di huruf A, B, C, atau D di bawah pilihan jawaban.
Oh begitu, terima kasih Pak.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Menjawab soal ujian. Menjawab soal ujian. En français, répondre aux questions de l'examen. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Bagaimana cara menjawab? Bagaimana cara menjawab? Qui signifie comment répondre? Pilihan ganda kartu itu. Pilihan ganda kartu itu. Signifie question à choix multiple, cette carte. Tanda silang. Tanda silang signifie symbole croix. Jawaban. Jawaban signifie la réponse. Oh, begitu. Oh, begitu signifie oh, je vois. Le mot interrogatif bagaimana? Bagaimana en français comment? C'est pour demander la façon ou le processus d'une activité. Pour répondre à ce mot interrogatif, vous devez expliquer la façon ou le processus d'une activité. Par exemple, bagaimana cara mengerjakan soal pilihan ganda ini? Bagaimana cara mengerjakan soal pilihan ganda ini? Signifie comment répondre aux questions de l'examen? Kamu bisa memberikan tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di awal pilihan jawaban. Kamu bisa memberikan tanda silang pada di huruf A, B, C, atau D di awal pilihan jawaban. Signifie, vous pouvez mettre une croix sur les lettres A, B, C ou D au début des choix de réponse. Pour montrer que vous avez compris, vous pouvez dire oh, begitu atau baiklah. Oh, begitu ou baiklah signifie oh, je vois. Par exemple, bagaimana cara mengerjakan soal? Bagaimana cara mengerjakan soal? Signifie comment répondre aux questions? Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Signifie croisez la bonne réponse. Oh, begitu. Terima kasih. Oh, begitu. Terima kasih. Signifie oh, je vois. Merci. Avant de terminer, apprendre l'indonésien d'aujourd'hui pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Maaf, Pak.
Iya. Ada apa, Kevin?
Bagaimana menjawab soal pilihan ganda ini?
Berikan tanda silang di huruf A, B, C, atau D di bawah pilihan jawaban.
Oh begitu, terima kasih Pak.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention, au revoir.
matamu. Apakah itulah caramu untuk membuktikan cintamu? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical et cette fois, vous allez écouter une chanson croncheon intitulée Tanah Kerinduan, chantée par Rafika Duri. Chers amis, cette chanson décrit un désir de beauté, de paix et de tout ce qui concerne la terre de naissance. Le désir de ville natale, de famille et de parents est souvent ressenti par les migrants. Cependant, ce souvenir de la beauté du pays de naissance est parfois aussi capable de divertir et d'encourager la vie. Mon cher auditeur, voici la chanson croncheon intitulée Tanah Kerinduan, chantée par Rafika Duri. Bonne écoute.
setiap waktu angin berlalu. Ku dengar lakunan merdu di sana tanah.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.